à l'oreille du monde, géopolitique et actualité internationale. Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, donc une nouvelle destination. Aujourd'hui, on va parler d'une guerre, mais pas n'importe laquelle, l'une des guerres les plus meurtrières du 21e siècle. Mais c'est aussi l'une des guerres les moins médiatisées par rapport au nombre de victimes. C'est pour ça qu'on en parle ce soir dans À l'oreille du monde. Par exemple, si je vous parle du Tigré ou Tigraï, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Probablement non. Eh bien, en fait, le Tigré, c'est un état régional de l'Éthiopie. C'est donc là que s'est déroulée une guerre sanglante, on va le voir. Pour parler de ce sujet, je reçois tout à l'heure Mehdi Labzaï, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l'Éthiopie. Avant ça, je vous présente la carte d'identité de l'Éthiopie et du Tigré. Puis, au milieu de l'émission, Florent nous fera son pas de côté musical. Merci d'écouter À l'oreille du monde. Il est 17h32 ici à Paris, 18h32 en Éthiopie. Et c'est parti.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Partons donc en Éthiopie, un pays situé dans la corne de l'Afrique. Il est entouré par le Soudan au nord-est, l'Érythrée au nord-est, par le Soudan du Sud à l'ouest et par le Kenya et la Somalie au sud. Sa superficie est d'un peu plus d'un million de kilomètres carrés, soit deux fois la France. Sa capitale est Addis Abeba. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. On compte 126 millions d'habitants et on y trouve environ 80 groupes ethniques distincts. Les Oromo et les Amara en sont les principaux. Les langues officielles de l'Éthiopie sont l'amharique et l'anglais. La monnaie là-bas est le birr éthiopien. Attardons-nous maintenant à la structure politique du pays. Le nom officiel, c'est la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et cela depuis la nouvelle constitution de 1995, qui a donc découpé le territoire en états régionaux sur une base ethnique. C'est important pour la suite. D'ailleurs, ce modèle a donné lieu à des tensions ethniques dans la fin des années 2010 en Éthiopie. Au total, il y a 12 États, chacun a une capitale. Le Tigré ou Tigraï en amharique, c'est donc un État régional de l'Éthiopie qui compte environ 7 millions d'habitants. Sa capitale est Mekele. Maintenant, retournons quelques années en arrière. En 2018, Abiy Ahmed arrive au pouvoir en tant que Premier ministre. Il commence une politique de transformation et de libéralisation de la scène politique éthiopienne, ce qui ne plaît pas à tout le monde, notamment au TPLF, c'est le Front de Libération du Peuple du Tigré, un des acteurs de la guerre qui arrive. Ce TPLF accuse Abiy Ahmed de les avoir écartés du pouvoir et de vouloir marginaliser la minorité tigréenne. Puis, en 2020, des élections générales nationales devaient avoir lieu pour élire les membres du Parlement fédéral. Mais elles ont été reportées par deux fois à cause du gouvernement, surtout à cause du Covid. Mais ça n'a pas plu au TPLF qui a décidé d'organiser ses propres élections, dont il est sorti vainqueur. Ce scrutin a évidemment été jugé illégal par le gouvernement fédéral, ce qui a entamé la guerre. Le gouvernement décide donc d'envahir le Tigré en novembre 2022 pour en prendre le contrôle. L'Érythrée voisine a pris part dans les combats aux côtés du gouvernement fédéral du Tigré, notamment parce qu'elle a toujours été rivale avec le TPLF. Cette guerre durera jusqu'en 2022 et se termine avec l'accord de paix de Pretoria. Voilà pour cette carte d'identité et ce rappel historique qui va nous permettre de bien comprendre l'interview de Mehdi Labzaï. C'est tout de suite, il est 17h35, une heure de plus à Mekele, et que vous écoutez toujours À l'oreille du monde sur Radio Campus Paris.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Pour parler de ce sujet, rien de mieux qu'un chercheur du CNRS et spécialiste de l'Éthiopie qui est sur place au Tigré. Mehdi Labzaï est en effet à Mekele, la capitale du Tigré, sauf que les communications et connexions sont très instables là-bas. C'est pourquoi les conditions de l'interview sont aujourd'hui un peu particulières. J'ai en effet posé les questions à Mehdi Labzaï qui m'a répondu par message vocaux WhatsApp. Donc vous l'entendrez, le son n'est vraiment pas optimal, mais ce n'est pas ce qui compte. Alors, premièrement, cette guerre étant très peu connue à l'international, on reparlera de la couverture médiatique plus tard, on aimerait bien comprendre ses origines. Qu'est-ce qui a provoqué l'émergence de ce conflit en 2020 et avant? Et est-ce que ce sont des raisons politiques et ethniques?
Des raisons politiques et ethniques? Ethniques, absolument pas. C'est vraiment des raisons politiques. On peut les résumer en gros de la manière suivante, c'est-à-dire on avait d'une part le gouvernement d'Abiy Ahmed qui avaient une conception plutôt centraliste ou centralisatrice de l'État. Et on avait en face le Front de libération du peuple du Tigré, qui lui portait une conception fédérale et fédéraliste, avec un niveau de décentralisation fidèle à la constitution actuelle de l'Éthiopie, qui a été adoptée en 1994, et que le TPLF avait très largement participé à rédiger. Je ne reviens pas sur la crise politique qui a porté Abiy Ahmed au pouvoir, mais en tout cas, une fois qu'il a été au pouvoir, il a vite apparu qu'il entendait avoir une conception, une pratique très centralisatrice du pouvoir, et que surtout, il a multiplié les remises en cause d'abord discursives hein, du fédéralisme ethnique. En reprenant notamment toute la grande histoire de l'Éthiopie impériale, aveugle à ses différences culturelles. Et donc ça, c'est ce contre quoi, entre autres choses, hein, mais c'est ce contre quoi le TPLF s'est mobilisé. Après, il y a eu plusieurs stades dans l'augmentation des tensions jusqu'au début de la guerre. Un stade important, c'était que en 2020, le mandat des députés arrivait à son terme. Abiy Ahmed n'avait lui-même pas de mandat populaire puisque il tenait son poste uniquement à des tractations partisanes et il fallait qu'il soit doté d'un mandat populaire à un moment donné. Et donc, les élections qui devraient avoir lieu en 2020 ont été reportées en utilisant le Covid pour ce faire de la part du gouvernement fédéral. Ce que le TPLF a refusé, a tenu ses élections dans la région du Tigray, qu'il a largement gagné ces élections. Et par la suite, le gouvernement fédéral a coupé les budgets au Tigray. Et puis, 2 mois plus tard, c'était le début de la guerre. Donc, désolé pour ce retour un petit peu long historiquement. C'est un retour un peu long, mais qui montre bien qu'il s'agit d'un conflit de nature complètement politique.
En tout cas, cette guerre de nature politique a été extrêmement violente. On dit que c'est l'une des plus meurtrières du XXIe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Combien y a-t-il de pertes militaires et civiles et de déplacés aussi?
Niveau des pertes militaires, c'est plus d'un demi-million, ce qui s'explique notamment par la conscription côté éthiopien, par une guérilla populaire côté tigréen. Et par les techniques de combat qui consistaient beaucoup à envoyer des vagues de soldats prendre des positions. Donc, tant qu'il y avait des munitions en face, ça faisait beaucoup de morts. Niveau des pertes civiles, c'est plus de 300 000, notamment des victimes de la famine au Tigray, mais aussi des victimes de nombreux massacres. Donc, en tout, probablement plus de 800 000 morts pour la guerre. Si on prend en compte les autres guerres, les autres théâtres de la guerre civile en Éthiopie plus généralement, on dépasse le million de morts très certainement depuis 2018. Mais pour la guerre au Tigray, c'est 800 000 morts environ. Les déplacés, il y en a énormément au Tigray, c'est plus de 800 000 personnes rien que déplacées du Tigray de l'Ouest, donc les parties qui sont encore occupées par la région Amhara qui était alliée au gouvernement fédéral pendant la guerre. Plus d'un million de déplacés internes au Tigray sur une population de 6 millions à 7, 6 millions et demi à 7 millions, plutôt 7 millions d'habitants. Donc c'est énorme. Il y a des déplacés dans toutes les villes du Tigray qui sont dans des écoles, dans des bureaux administratifs, sous des tentes depuis 4 ans maintenant. La question du retour des déplacés est une des pommes de discorde entre le gouvernement fédéral et les différentes factions maintenant au sein du Tigray. C'est une question qui a divisé le leadership tigréen sur comment il fallait s'y prendre, même si tous sont d'accord officiellement pour plaider pour le retour des déplacés.
Et pour bien qu'on comprenne les rapports de force, quel camp a été le plus violent et ont-ils commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité?
Quel camp est le plus violent? Je dirais que c'est clairement le gouvernement fédéral allié aux milices Amhara et à l'Érythrée. Des forces de défense du Tigray ont commis des exécutions extrajudiciaires, quelques massacres aussi quand ils étaient en Amhara et dans l'Afar. Mais ce sont des crimes de guerre sans commune mesure avec les crimes contre l'humanité pratiqués par l'armée fédérale, sur les Érythréens et surtout les milices Amhara au Tigray.
Petit l'ONU a fait un rapport en qualifiant exactement les faits de la manière dont je viens de le faire, mais ils l'ont fait juridiquement. C'est-à-dire que des crimes de guerre ont été commis de toutes parts, mais les crimes contre l'humanité sont bien du ressort du gouvernement fédéral et des Érythréens et des Métis Samara. Et il faudrait davantage d'enquêtes pour conclure ou non au génocide, en sachant que les enquêteurs de l'ONU, du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, n'ont pas écarté la possibilité que ça ait été un génocide, de qualifier juridiquement ce qui s'est passé de génocide. Cependant, ils n'ont pas eu accès. Ils n'ont pas eu accès au Tigray, ils n'ont pas eu accès à l'Éthiopie, donc n'ont pas pu faire les davantage de recherches auxquelles ils appellent.
Avant de continuer l'interview, on marque une pause avec le pas de côté de Florent. Salut Florent.
Salut Léo.
Aujourd'hui, tu mêles géopolitique et musique.
Géopolitique et musique, en effet, pour un peu de légèreté. Les cinéphiles auront reconnu un extrait de la bande originale de Broken Flowers, le film de Jim Jarmusch, sorti en 2005. Mais saviez-vous qu'il s'agit d'une musique éthiopienne, plus précisément d'ethio-jazz? Ce style unique marie rythme traditionnel éthiopien et influence occidentale, comme le jazz, la soul ou le funk. Surnommée parfois Swinging Addis, en référence à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, cette musique a connu son apogée entre les années 60 et 70. Si Broken Flowers a ravivé l'intérêt pour ce genre musical, c'est surtout à Francis Falsetto, producteur français qui a compilé les 30 albums de la collection éthiopique, que l'on doit sa notoriété. Une pépite pour les amateurs, dont je fais partie. Mais quel lien avec la géopolitique? Revenons à l'empereur Ounegus Haïlé Sélassié, dernier roi d'Éthiopie, celui qui se présentait comme le descendant de la reine de Saba et du roi Salomon, rien que ça. Fasciné par les fanfares, il a encouragé leur développement dans tout le pays pour moderniser l'image de l'Éthiopie, y compris à l'international. Ces fanfares ont évolué sous l'influence d'instruments et de thèmes occidentaux pour donner naissance à l'ethio-jazz. Une musique que ni Haïlé Sélassié ni son administration n'ont manifestement cherché à censurer. C'est le coup d'état militaire du général Mengistu qui, en 1974, a mis fin brutalement au règne d'Haïlé Sélassié et à cet âge d'or musical. La junte militaire a en effet jugé l'ethio-jazz décadent et insuffisamment national. Même si cette musique a été étouffée dans son pays natal, elle a survécu grâce aux musiciens exilés, notamment aux États-Unis. Instrument politique ou victime des régimes, la musique trouve toujours un moyen de survivre ou de renaître, et c'est tant mieux. Et maintenant, place à Alemaye ou Estete, avec Memar Meme Rame, à retrouver sur le volume 9 de la collection éthiopique chez Bouddha Music. Ouvrez les oreilles et régalez-vous.
Bandainu yalexal tirkumu teftoti Confirme Thomas and said, Guy Honor Data. The wounded is a grand son of a dog. Mamma, 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 We'll be right back.
politique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
On continue l'interview par messages vocaux avec Mehdi Labzaï, spécialiste de l'Éthiopie. Avant d'aborder la situation actuelle au Tigré, parlons de l'indifférence médiatique sur cette guerre. On vient de le voir, c'est l'une des guerres les plus meurtrières du XXIe siècle, mais on n'en entend quasiment pas parler dans les médias, au contraire de la guerre à Gaza ou en Ukraine, même si les enjeux sont complètement différents. On parle souvent de guerre oubliée. Et selon vous, Mehdi Labzaï, qu'est-ce qui fait que ce conflit soit si peu médiatisé ?
Alors, en ce qui concerne l'indifférence médiatique et la comparaison avec d'autres conflits, je ne peux que constater effectivement que c'est une guerre qui n'a pas reçu beaucoup d'attention médiatique, qui n'en reçoit toujours pas, à l'instar de celle qui se déroule au Soudan, malheureusement, depuis deux ans, presque jour pour jour, et qui, elle aussi, manque d'attention médiatique. Cependant, alors, comptez pas sur moi pour dire que la guerre à Gaza reçoit trop d'attention médiatique. Je pense que vu ce qui est en train d'être commis à Gaza et également en Cisjordanie, elle mérite l'attention médiatique qu'elle reçoit. Elle en mériterait même certainement plus. Voilà, moi je ne peux que déplorer le fait que l'on ne parle pas de ce qui se passe et ce qui s'est passé au Tigray. Je l'explique en partie par les politiques du gouvernement fédéral qui a consisté à imposer un siège comprenant le fait d'empêcher les journalistes d'avoir accès à la région. Donc il est très compliqué de venir au Tigray et il y a à ma connaissance qu'une poignée d'équipes de journalistes internationaux qui sont parvenus à s'y rendre pendant la guerre. Ça n'empêche pas de normalement de se reposer sur le travail des journalistes locaux qui ont continué à travailler dans des conditions absolument dantesques pendant le siège. On devrait davantage se reposer sur leur production et les écouter et leur donner la parole, ce qui n'est malheureusement pas assez le cas. Après, moi, je ne travaille pas depuis l'intérieur des rédactions, donc je ne suis pas trop en mesure de voir comment les priorités de l'agenda médiatique dans les rédactions sont hiérarchisées. Maintenant, ce que j'entends de la part des journalistes avec lesquels j'en parlais, c'est vrai qu'il y a cet effet de concurrence des guerres importantes dans le monde et que l'Ukraine, encore plus que la Palestine, a reçu davantage d'attention. Les journalistes m'expliquaient que quand vous aviez 10 minutes dans un journal, on avait peut-être 4 minutes pour parler de l'international. Qu'une fois qu'on avait mis dans ces 4 minutes, si c'est à la radio, hein, j'entends, l'Ukraine et Gaza, et bien effectivement, le Soudan, le Tigray ou d'autres conflits passent relativement inaperçus.
Mais en dehors des médias, il y a la communauté internationale. Et j'aimerais donc vous demander quelle est la position de la France sur ces conflits en Éthiopie.
La position de la France, elle a été clairement en soutien au régime. L'ambassadeur français a reçu, par exemple, le chef du mouvement national Amara, qui est quelqu'un qui, par ailleurs, appelait à se rendre sur les lignes de front de manière régulière et très explicite. Et bien, cet homme a été reçu par l'ambassadeur en plein milieu de la guerre, en plein milieu des phases actives de combat. La France a, avec l'Union européenne, en tant qu'État membre de l'Union européenne, pris quelques sanctions au début de la guerre qui ont vite été levées, mais la France a surtout mis près de 9 mois à suspendre sa coopération militaire avec le régime alors que la guerre était en cours. La coopération militaire a semble-t-il repris depuis, alors que la guerre continue dans les régions de l'Amara et de l'Oromia, pour des raisons sensiblement similaires à celles qui ont présidé à la guerre au Tigray. Voilà, l'ambassadeur de France, l'ancien ambassadeur de France avait fait une interview dans un journal éthiopien de premier plan pour dire que dès que les conditions le permettraient, il souhaiterait reprendre la coopération militaire juste après les accords de Pretoria. Donc oui, la France est un allié du régime. On l'a vu avec la visite de Macron qui a inauguré un palais refait par la coopération culturelle française, qui d'ailleurs s'inscrit complètement dans cette histoire, dans l'histoire soi-disant millénaire de l'État central éthiopien, qui est celle que Abiy Ahmed veut promouvoir contre une histoire plus périphérique des peuples dominés. Sur tous ces aspects, la France est un allié du gouvernement. Dernièrement, l'AFD a signé pour plus de 20 millions d'euros, je crois que c'est 28 millions d'euros, je ne suis pas très sûr des chiffres, d'aide pour les réformes de l'État éthiopien, et notamment la libéralisation encore de l'économie. Donc c'est encore un message clair d'appui au régime. La France a aussi présidé les négociations avec la Chine, un comité de négociation de réduction de la dette éthiopienne, ce qui consistait en fait a posteriori à financer l'achat du matériel militaire par le régime pendant la guerre, a posteriori, et notamment des drones qui ont fait beaucoup de victimes civiles et qui coûtent très cher. Pour toutes ces raisons, on peut clairement ranger la France dans les soutiens au régime.
Alors parlons maintenant de la situation actuelle. Il me semble que la situation humanitaire est catastrophique. En plus, Donald Trump, il n'y a pas longtemps, a gelé les aides internationales de l'USAID. Est-ce que ça a un impact sur la situation en Éthiopie?
En ce qui concerne la fermeture de USAID et la suspension voire même la fin de la distribution d'aide alimentaire, au début, dans la décision de Trump, il n'était pas question de fermer la distribution d'aide alimentaire, sauf qu'ils ont fermé les mécanismes de paiement qui permettaient de payer les distributeurs, etc. Ce qui fait qu'à Mekelle, en tout cas le mois dernier, il y avait encore beaucoup de. Donc dans la capitale du Tigray, il y avait encore beaucoup d'entrepôts qui étaient pleins d'aide qui ne pouvaient pas être distribués. Il y a 1 million de personnes au Tigray qui sont concernées par la suspension de l'aide humanitaire, en sachant qu'il y a 2,4 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire d'urgence au Tigray. Au Tigray seulement, sur une population de 7 millions d'habitants. Donc oui, c'est une décision qui a des conséquences importantes et qui va en avoir aussi à plus long terme, surtout si d'autres bailleurs ne prennent pas le relais. Pour l'instant, ceci n'est pas clair, mais ça m'étonnerait que d'autres bailleurs prennent complètement le relais des activités du USAID. Il y a aussi des problèmes pour l'accès aux médicaments, notamment les antirétroviraux, tous les médicaments nécessaires pour les malades du sida. Le sida a été très largement répandu par les viols qui ont eu lieu dans le cadre de la guerre. 120 000 femmes ont été violées selon le bureau de la santé du Tigray, selon le bureau régional. De nombreuses d'entre elles ont contracté des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH, qui nécessitent des traitements pour lesquels USAID était, ma foi, assez utile. Et en ce qui concerne la situation humanitaire plus largement, je vous ai déjà mentionné les déplacés qui sont toujours sous des tentes, qui sont toujours qui n'ont pas de terre à labourer, qui sont qui trouvent des formes d'emploi dans, par exemple, de l'orpaillage, je dirais presque sauvage, où ils sont exposés à l'utilisation de produits chimiques à des conditions extrêmement difficiles. Donc non, là-dessus, sur les déplacés, il n'y a pas eu d'amélioration en 4 ans.
Et pour terminer, je voulais aussi vous demander quelle est la situation politique, militaire actuelle au Tigré en Éthiopie. Y a-t-il un risque de résurgence du conflit? Parce que je rappelle que la guerre qui avait commencé en 2020 s'est terminée en 2022 avec l'accord de Pretoria, mais celui-ci est-il toujours respecté?
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'accord de Pretoria a été négocié par une équipe qui a signé au nom du TPLF, mais au sein de laquelle on trouvait notamment un général qui n'était plus membre du parti depuis des années et qui avait des raisons historiques d'en vouloir à ses anciens camarades. On trouvait aussi, en fait, dans cette équipe, parmi les gens qui ont véritablement négocié l'accord, sur les 6 personnes envoyées à Pretoria, ce sont 2 personnes qui ont véritablement négocié l'accord avec le gouvernement fédéral et sous l'égide des États-Unis. Ensuite, quand ils sont revenus à Mekelle, à la capitale du Tigray, ils n'ont pas été accueillis dans les meilleurs termes, puisque quand ils sont partis à Pretoria, la situation militaire était très compliquée pour les forces de défense du Tigray. Mais pendant qu'ils étaient à Pretoria, les forces de défense du Tigré avaient réussi à faire un petit peu mieux. Et donc, ce qu'ils ont négocié était un petit peu en deçà. C'était une forme de capitulation qui était en deçà de ce qu'espéraient le TPLF. Donc, le TPLF s'est réuni, a décidé de quand même accepter, endorser, faire sien l'accord de Pretoria. Mais il restait des tensions qui étaient assez fortes en interne. Entre d'un côté plutôt une équipe dite de réformateurs plus convaincus de l'intérêt de l'accord de Pretoria, et de l'autre côté une équipe du TPLF qui considérait qu'on aurait pu avoir un meilleur accord et qu'il y avait trop de concessions qui avaient été faites au fédéral. Ensuite, le TPLF a continué à mettre la pression sur la faction plus ouverte aux négociations avec le fédéral, qui est en plus devenue l'administration intérimaire du Tigré. Donc a été choisi par le TPLF également, mais qui était institutionnellement l'administration intérimaire, qui dépendait beaucoup plus du fédéral. Et le TPLF lui a mis la pression, notamment sur la question du retour des réfugiés, des déplacés, pardon, c'est-à-dire de ces près d'1 million de personnes, plus de 800 000 personnes en tout cas, déplacés, notamment du Tigré de l'Ouest et répandus dans toutes les villes du Tigré. Sauf que l'accord de Pretoria disait bien que c'était au gouvernement fédéral d'assurer le retour des déplacés. Donc on est arrivé dans une situation où le gouvernement fédéral plaçait l'administration intérimaire dans une situation impossible. Ils ne pouvaient pas remplir le contrat qui leur était donné. Et donc cette crise interne au TPLF a empiré. Les membres du TPLF qui étaient aussi membres de l'administration intérimaire ont été exclus. Ces tensions se sont aussi figées sur le contrôle de certaines ressources, notamment des mines d'or, de l'orpaillage qui a continué, l'orpaillage sauvage qui a continué après la guerre. Et toutes ces tensions ont mené aux tensions actuelles qu'on a vues donc il y a un mois, le 12 mars, Getachew Rada, le président intérimaire du Tigray, est allé à Addis Abeba et au début, on a pensé qu'il demandait le soutien du fédéral dans sa lutte contre le TPLF. En parallèle, le TPLF prenait contrôle de certaines administrations qui étaient fidèles à l'administration intérimaire. Et donc, on a cru à un moment donné que les forces fédérales pourraient militairement entrer au Tigray.
Alors malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais si je résume, je coupe Mehdi Labzaï et je résume. Il nous a dit que donc avec ce cas-là qu'il vient nous donner, il y a eu un risque. On pensait qu'il y a pu y avoir une nouvelle action militaire, mais que c'est pour ça que les tensions sont quand même assez fortes et qu'on peut risquer, qu'on peut penser qu'il y a un risque de résurgence d'un certain conflit. On suivra en tout cas cette situation de l'Éthiopie dans À l'oreille du monde. C'est la fin de l'interview par message vocaux. Je remercie beaucoup Mehdi Labzaï d'avoir répondu à mes questions, d'avoir trouvé le temps dans son planning. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, au mois prochain plutôt, pour une nouvelle émission. Vous pouvez réécouter les anciennes sur le site d'internet de Radio Campus Paris ou sur vos applications de podcast. Je vous donne rendez-vous le 10 mai, donc, pour une nouvelle destination. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.